de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En mars 1982, à l'occasion d'une réédition de son journal, c'était à un peintre, Eugène Delacroix, qu'était consacrée Relecture, l'émission littéraire du Berguin que nous allons entendre. L'occasion de rappeler que ce monument de la peinture était aussi un écrivain qui nous a légué des nouvelles, œuvres de jeunesse, des écrits critiques, sa correspondance avec George Sand et un très important journal tenu de 1822 jusqu'à sa mort en 1863. Pour parler de ce précieux témoignage au jour le jour sur la vie de Delacroix, sur ses réflexions d'artiste sur le Paris et l'époque dans lesquelles il vécut, Hubert Juin avait convié le philosophe et historien de l'art Hubert Damiche, la critique littéraire Béatrice Didier, Pierre Dex, historien de l'art, et l'historien Michel Drouin. La lecture des textes ayant été confiée aux comédiens Michel Bouquet et Jean-Paul Richepin. Une émission diffusée la première fois le 12 mars 1982 qui s'ouvrait sur le magnifique portrait de Delacroix écrit par Baudelaire.
Relecture, une émission d'Hubert Juin. Aujourd'hui, Eugène Delacroix, avec la participation de Béatrice Didier, Pierre Dex, Michel Drouin et Hubert Damiche. Texte lu par Michel Bouquet et Jean-Paul Richepin. Réalisation, Anne Lemaître.
La présente émission de relecture est consacrée à Eugène Delacroix. On dira surprenant pour une émission qui s'appelle relecture, puisque Eugène Delacroix est un peintre. Il n'empêche que Eugène Delacroix était également un écrivain. Un écrivain non seulement par sa correspondance que nous connaissions, et puis par un autre monument dont je vais parler dans un instant, mais également par des textes qu'il a effectivement écrits, qu'il a fait publier. Il est évident que la correspondance est un genre littéraire un peu considéré pendant très longtemps comme annexe, et que justement ce monument d'Eugène Delacroix est un journal. C'est un journal tenu par lui de 1822 à 1863, et qui vient fort heureusement d'être réédité chez Plon dans la collection Les Mémorables, avec une préface de Hubert Damiche, une introduction et des notes par André Joubin, texte que nous connaissions, et l'édition a été revue par Régis Labourdette. Nous n'allons pas ici entrer dans le détail de cette édition, puisque d'autres éditions, beaucoup plus savantes que celle-ci, sont en préparation. Simplement, il était très important que le lecteur français, que le lecteur, qui n'a pas besoin tellement de notes ou d'ajouts, puisse posséder, avoir à sa disposition, lire ou relire ce document qu'est le journal d'Eugène Delacroix. Mais avant même d'entamer, de commencer les discussions et les citations de textes qui illustreront cette émission de relecture, je voudrais donner la parole, par comédien interposé, à un témoin. Ce témoin est considérable, il s'agit de Charles Baudelaire. Et Charles Baudelaire, dans un article de la presse, s'adressant à un lecteur, d'une façon directe, il l'appelle « monsieur », dressait un portrait d'Eugène Delacroix, l'homme et les œuvres. Je veux lui laisser la parole pour l'homme.
Eugène Delacroix était un curieux mélange de scepticisme, de politesse, de dandysme,
de volonté ardente, de ruse, de despotisme, et enfin d'une espèce de bonté particulière et de tendresse modérée qui accompagne toujours le génie. Son père appartenait à cette race d'hommes forts dont nous avons connu les derniers dans notre enfance. Les uns fervents apôtres de Jean-Jacques, les autres disciples déterminés de Voltaire, qui ont tous collaboré avec une égale obstination à la Révolution française, et dont les survivants, Jacobins ou Cordeliers, se sont ralliés avec une parfaite bonne foi, c'est important à noter, aux intentions de Bonaparte. Eugène Delacroix a toujours gardé les traces de cette origine révolutionnaire. On peut dire de lui, comme de Stendhal, qu'il avait grande frayeur d'être dupe. Sceptique et aristocrate, il ne connaissait la passion et le surnaturel que par sa fréquentation forcée avec le rêve. Haïsseur des multitudes, il ne les considérait guère que comme des briseuses d'images, et les violences commises en 1848 sur quelques-uns de ses ouvrages n'étaient pas faites pour le convertir au sentimentalisme politique de nos temps. Il y avait même en lui quelque chose comme style, manière et opinion de Victor Jacquemont. Je sais que la comparaison est quelque peu injurieuse. Aussi je désire qu'elle ne soit entendue qu'avec une extrême modération. Il y a dans Jacquemont du bel esprit bourgeois révolté et une gouaillerie aussi encline à mystifier les ministres de Brahma que ceux de Jésus-Christ. Delacroix, averti par le goût toujours inhérent au génie, ne pouvait jamais tomber dans ces vilainies. Ma comparaison n'a donc trait qu'à l'esprit de prudence et à la sobriété dont ils sont tous deux marqués. De même, les signes héréditaires que le XVIIIe siècle avait laissés sur sa nature avaient l'air empruntés surtout à cette classe aussi éloignée des utopistes que des furibonds, à la classe des sceptiques polis, les vainqueurs et les survivants, qui généralement relevaient plus de Voltaire que de Jean-Jacques. Aussi, au premier coup d'œil, Eugène Delacroix apparaissait simplement comme un homme éclairé, dans le sens honorable du mot, comme un parfait gentleman sans préjugés et sans passion. Ce n'était que par une fréquentation plus assidue qu'on pouvait pénétrer sous le vernis et deviner les parties abstruses de son âme. Un homme à qui on pourrait plus légitimement le comparer pour la tenue extérieure et pour les manières serait M. Mérimée. C'était la même froideur apparente, légèrement affectée, le même manteau de glace recouvrant une pudique sensibilité et une ardente passion pour le bien et pour le beau. C'était sous la même hypocrisie d'égoïsme, le même dévouement aux amis secrets et aux idées de prédilection. Il y avait dans Eugène Delacroix beaucoup du sauvage. C'était là la plus précieuse partie de son âme, la partie vouée tout entière à la peinture de ses rêves et au culte de son art. Il y avait en lui beaucoup de l'homme du monde. Cette partie-là était destinée à voiler la première et à la faire pardonner. Ça a été, je crois, une des grandes préoccupations de sa vie de dissimuler les colères de son cœur et de n'avoir pas l'air d'un homme de génie. Son esprit de domination, esprit bien légitime, fatal d'ailleurs, avait presque entièrement disparu sous mille gentillesses. On eût dit un cratère de volcan artistement caché par des bouquets de fleurs. Un autre trait de ressemblance avec Stendhal était sa propension aux formules simples, aux maximes brèves pour la bonne conduite de la vie. Comme tous les gens d'autant plus épris de méthode que leur tempérament ardent et sensible semble les en détourner davantage, Delacroix aimait façonner de ces petits catéchismes de morale pratique que les étourdis et les fainéants qui ne pratiquent rien attribueraient dédaigneusement à M. de la Palice, mais que le génie ne méprise pas parce qu'il est apparenté avec la simplicité. Maximes saines, fortes, simples et dures, qui servent de cuirasse et de bouclier à celui que la fatalité de son génie jette dans une bataille perpétuelle. Ai-je besoin de vous dire que le même esprit de sagesse ferme et méprisante inspirait les opinions de M. Delacroix en matière politique? Il croyait que rien ne change, bien que tout ait l'air de changer, et que certaines époques climatériques, dans l'histoire des peuples, ramènent invariablement des phénomènes analogues. Croyez bien, cependant, que ce dur bon sens n'enlevait aucune grâce à M. Delacroix. Cette verve d'incrédulité et ce refus d'être dupe assaisonnait comme un sel byronien sa conversation si poétique et si colorée. Il tirait aussi de lui-même, bien plus qu'il ne les empruntait à sa longue fréquentation du monde, de lui-même, c'est-à-dire de son génie et de la conscience de son génie, une certitude, une aisance de manière merveilleuse, avec une politesse qui admettait, comme un prisme, toutes les nuances depuis la bonhomie la plus cordiale jusqu'à l'impertinence la plus irréprochable. Il possédait bien 20 manières différentes de prononcer « mon cher monsieur » qui représentait, pour une oreille exercée, une curieuse gamme de sentiments. Car enfin, il faut bien que je le dise, puisque je trouve en ceci un nouveau motif d'éloge, Eugène Delacroix, quoiqu'il fût un homme de génie, ou parce qu'il était un homme de génie complet, participait beaucoup du dandy. Lui-même avouait que dans sa jeunesse, il s'était livré avec plaisir aux vanités les plus matérielles du dandysme, et racontait en riant, mais non sans une certaine gloriole, qu'il avait, avec le concours de son ami Bonington, fortement travaillé à introduire parmi la jeunesse élégante le goût des coupes anglaises dans la chaussure et dans le vêtement. Ce détail, je présume, ne vous paraîtra pas inutile, car il n'y a pas de souvenir superflu quand on a à peindre la nature de certains hommes.
Ceci étant entendu, je veux dire la voix de Baudelaire étant entendue, eh bien nous allons attaquer ce fameux journal d'Eugène Delacroix et je voudrais d'abord me tourner vers Hubert d'Amiche qui en a fait la préface, je veux dire la préface de cette réédition, et lui demander de nous situer un peu ce journal qui est à la fois plein de trous, qui est à la fois assez complet malgré tout dans son trajet, et surtout qui, à mon sens, montre qu'il y a un divorce ou qu'il existe un fossé entre l'image de Delacroix peintre, surtout entre les motifs d'Eugène Delacroix peintre, et son être intime, son être réel, celui qu'il confie au journal, Hubert d'Amiche.
Oui, je suis bien d'accord avec vous sur les deux questions que vous posez, encore que je ne parlerai pas de trous du journal de Delacroix. Ce qui me frappe dans ce journal de Delacroix, c'est qu'il... D'abord, il démarre sur une très brève période, 1822-1824, pas même deux années, en fait, et ensuite recommence en 1847. Ce qui fait qu'on ne peut pas parler d'un journal continué qui est en train des trous, on pourrait plutôt parler de sorte d'intervention du journal intime dans la carrière ou dans la vie de Delacroix. D'abord une très brève, à un moment tout à fait décisif de sa carrière, ce qu'il faut appeler sa carrière. Et puis, alors une beaucoup plus longue qui porte les dernières années de sa vie, en fait. Donc je ne crois pas qu'on puisse parler de trous du journal. C'est plutôt ce côté ponctuel qui m'intéresserait, je dirais, cette intervention ponctuelle. Qu'est-ce qui a fait que Delacroix, à un moment donné de sa vie, a ressenti le besoin d'écrire pour quelques mois d'abord, et puis ensuite, au cours de plus longues années, de tenir plutôt un journal intime. En ce qui concerne ce que vous dites du divorce entre l'image que nous donne, je ne sais pas si c'est tellement l'homme intime, mais enfin au moins du personnage de la Croix, ce journal, et des contradictions au fond qu'elle présente avec l'image d'abord que nous nous sommes faites de ce peintre, en tant qu'elle nous a été d'une certaine manière imposée par l'interprétation de la peinture de Delacroix, qui ne correspond pas nécessairement à la réalité. Nous avons une image, pour aller vite, de Delacroix comme l'un des premiers peintres modernes, disons, et comme quelqu'un qui aurait préfacé, en quelque sorte, la peinture moderne. Évidemment, ce n'est pas du tout de ça dont il est question dans le journal, puisqu'au contraire, Delacroix y apparaît comme un peintre du XVIe siècle, dans ses intentions véritables. Et puis aussi la contradiction que présente cette image avec les photographies qu'on a de Delacroix. Des photographies qui sont elles-mêmes très contradictoires, que ce soit celle de Pierre Petit ou celle de Nadar qui nous présente un personnage, celle de Pierre Petit, une sorte de rapin en écharpe et style Maharaja, comme le disait Théophile Gautier, ou que ce soit celle de Nadar qui nous présente un personnage très officiel. Et puis alors les photos de la fin qui montrent au contraire Delacroix qui a pour ainsi dire, jeter bas les masques. Enfin, c'est des photos qui ont été prises dans les deux dernières années de sa vie. Il y a évidemment là un problème qui est tout à fait intéressant et que je serais tenté de... Enfin, d'autres sont plus qualifiés que moi ici pour en parler, sans doute, mais que je serais tenté de qualifier de théorique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il en est d'un peintre qui tient un journal intime? Quand il s'agit d'un écrivain, bon, on a derrière l'auteur des textes, on a, comme le disait Barthes, on a l'homme qui se dévoile à travers son journal intime. Quand il s'agit d'un peintre, la chose est très différente parce que... comment le peintre est-il présent dans sa peinture? Il y a là-dessus une page tout à fait extraordinaire de Delacroix, où il explique précisément ce qui peut nous choquer, nous qui sommes habitués à un tout à fait autre discours sur la peinture moderne, où il explique que le peintre n'est pas présent dans sa peinture. Et ça, je crois qu'il faut l'entendre dans un sens strictement théorique, c'est-à-dire qu'on voit très bien comment un écrivain peut être présent dans ses livres. Il peut déjà commencer par dire « je », même si ça n'est pas exactement lui qui se présente sous ce titre. Comment un peintre en ferait-il de même? Quelle serait la modalité, si vous voulez, de la peinture qui permettrait au peintre de dire « je » dans les énoncés ou dans les propositions picturales qu'il nous propose?
Alors je vous coupe une seconde, parce que si nous lisons le journal, nous commençons au début, c'est-à-dire en septembre 1822. Pour moi, lecteur du journal, aujourd'hui, je m'aperçois tout simplement, et je vous propose d'écouter cette page, il y a une détermination de Delacroix. Il dit « Je commence un journal intime ». Bon, c'est vrai, il va l'interrompre assez vite pour le reprendre par la suite. Et malgré tout, il y a là une sorte de leitmotiv assez étonnant qui est un Delacroix qui dit « Je perds la mémoire, je vais récupérer la mémoire ». Il parle beaucoup, non pas du souvenir, non pas, ce n'est pas pour lui de voir ce souvenir, mais c'est marqué quelque part, quelque chose... qu'il sait qu'il va oublier. Autrement dit, il y a un aspect tout à fait existentiel dans ce journal. J'entends par existentiel simplement le fait de noter des choses qui, autrement, cesseraient d'être mémorables.
Louroux, mardi 3 septembre 1822. Je mets à exécution le projet formé tant de fois d'écrire un journal. Ce que je désire le plus vivement, c'est de ne pas perdre de vue que je l'écris pour moi seul. Je serai donc vrai, je l'espère. J'en deviendrai meilleur. Ce papier me reprochera mes variations. Je le commence dans d'heureuses dispositions. Je suis chez mon frère. Il est 9h ou 10h du soir, qui viennent de sonner à l'horloge du Louroux. Je me suis assis 5 minutes au clair de lune, sur le petit banc qui est devant ma porte pour tâcher de me recueillir. Mais, quoique je sois heureux aujourd'hui, je ne retrouve pas les sensations d'hier soir. C'était pleine lune. Assis sur le banc qui est contre la maison de mon frère, j'ai goûté des airs délicieuses. Après avoir été reconduire des voisins qui avaient dîné et fait le tour de l'étang, nous rentrâmes. Il lisait les journaux. Moi, je pris quelques traits des Michel-Ange que j'ai apportés avec moi. La vue de ce grand dessin m'a profondément ému et m'a disposé à de favorables émotions. La lune s'est enlevée toute grande et rouge dans un ciel pur, s'éleva peu à peu entre les arbres. Au milieu de ma rêverie et pendant que mon frère me parlait d'amour, j'entendis de loin la voix de Lisette. Elle a un son qui fait palpiter mon cœur. Elle est plus puissante que tous autres charmes de sa personne. Car elle n'est point véritablement jolie, mais elle a un grain de ce que Raphaël sentait si bien. Ses bras purs comme du bronze et d'une forme en même temps délicate et robuste. Cette fille, qui n'est véritablement pas jolie, prend pourtant une finesse, mélange enchanteur de volupté et d'honnêteté, comme il y a 2 ou 3 jours, quand elle vint, que nous étions à table au dessert, c'était dimanche. Et quoique je ne l'aime pas dans ses atours qui la serrent trop, elle me plut vivement ce jour-là, surtout pour ce sourire divin dont je viens de parler, à propos de certaines paroles graveleuses qui la chatouillèrent et firent baisser de côté ses yeux qui trahissaient de l'émotion. Il y en avait certes dans sa personne et dans sa voix, car, en répondant des choses indifférentes, elle, sa voix, était un peu altérée, et elle ne me regardait jamais. Sa gorge aussi se soulevait sous le mouchoir. Je crois que c'est ce soir-là que je l'ai embrassée dans le couloir noir de ma maison, en rentrant par le bourg dans le jardin. Les autres étaient passés devant, j'étais resté derrière avec elle. Elle me dit toujours de finir, et cela tout bas et doucement. Mais tout cela est peu de chose. Qu'importe. Son souvenir, qui ne me poursuivra point comme une passion, sera une fleur agréable sur ma route et dans ma mémoire. Elle a un son de voix qui ressemble à celui d'Elisabeth Salter, dont le souvenir commence à s'effacer.
Hubert Damisch.
Oui, ce thème de la mémoire, à mon avis, c'est le grand thème du journal. Le fait que Delacroix revienne sans arrêt sur non pas ses troubles de mémoire, mais sur son absence de mémoire, sur son incapacité à se souvenir. Et ça, je crois alors qu'il faut le... Bon, bien sûr, on peut en poser le problème en termes personnels, intimes, mais je crois qu'il faut aller plus loin. Et que c'est la façon même dont Delacroix a envisagé son art qui est en cause ici. C'est-à-dire que pour moi, aux yeux de Delacroix, peintre, mais peintre amphibie, c'est-à-dire peintre qui, comme il le dit lui-même, peintre qui écrit, et qui a finalement plus de facilité à écrire qu'à peindre, comme il le dit encore, tout se passe comme si la peinture avait perdu la mémoire à l'époque où il écrivait, où il tenait son journal, et à l'époque où il peignait.
Oui, je vous arrête encore une fois, Berdam, je vous expliquerai après Béatrice Didier, je crois, dans la mesure même où je pense que le projet de Delacroix, peintre ou écrivain, est singulièrement modifié par une pratique d'écriture en l'occurrence, et qui est celle du journal intime.
Bien sûr.
Béatrice Didier.
Oui, si je m'intéresse au journal de Delacroix, c'est un peu avec le tic du spécialiste qui a lu beaucoup de journaux intimes et qui a peut-être un peu la manie, quand il lit un autre journal intime ou à nouveau un journal connu, de voir en quoi on retrouve des constantes de ce qui est quand même un genre littéraire, ou bien en quoi aussi il y a des variantes et en quoi Delacroix s'écarte du journal intime type, si on peut dire. J'ai retrouvé, en relisant le journal de Delacroix, bien des aspects qu'on retrouve dans tous les journaux, finalement. D'abord, le désir d'une certaine intimité avec soi-même. Par exemple, une des premières déclarations en 1822, c'est cette idée que le journal est fait uniquement pour lui. Bon, ça, presque tous les auteurs de journaux intimes disent ça, c'est plus ou moins vrai, plus ou moins sincère. Bon,
enfin, mais je vous coupe là une seconde, parce que quand même, si vous parlez des journaux intimes, bien. Mais il y a quand même une très grande différence. Autrement dit, Delacroix écrit son journal intime. Alors, moi, ce qui me rend méfiant, c'est justement la mémoire de Delacroix. Autrement dit, à certains moments, je pense que c'est vers les années 60, Delacroix dit « plus on vieillit, mieux c'est. Plus moi je vieillis, mieux j'écris facilement. Et même mieux je peins. »
12 octobre 1852. Aujourd'hui, vu Sina, avec Mademoiselle Rachel. J'y avais été pour le costume de Corinne. Je l'ai trouvé à merveille. Beauvalet n'est décidément pas mal dans Auguste, surtout à la fin. Voilà un homme qui fait des progrès. Aussi les rides lui viennent, et probablement les cheveux blancs. Ce que la perruque d'Auguste ne m'a pas permis de juger. Comment ? L'acteur qui a toute sa vie, ou du moins pendant toute sa jeunesse, dans l'âge de la force et du sentiment, à ce qu'on dit était mauvais ou médiocre, devient passable ou excellent quand il n'a plus de dents ni de souffle. Et il n'en serait pas de même dans les autres arts? Est-ce que je n'écris pas mieux et avec plus de facilité qu'autrefois? À peine je prends la plume, non seulement les idées se pressent et sont dans mon cerveau comme autrefois, mais ce que je trouvais autrefois une très grande difficulté, l'enchaînement, la mesure, s'offrent à moi naturellement et dans le même temps où je conçois ce que j'ai à dire. Et dans la peinture, n'en est-il pas de même? D'où vient qu'à présent, je ne m'ennuie pas un seul instant quand j'ai le pinceau à la main et que j'éprouve que, si mes forces pouvaient y suffire, je ne cesserais de peindre que pour manger et dormir. Je me rappelle qu'autrefois, dans cet âge prétendu de la verve et de la force de l'imagination, l'expérience manquant à toutes ces belles qualités, j'étais arrêté à chaque pas et dégoûté souvent. C'est une triste dérision de la nature que cette situation qu'elle nous fait avec l'âge. La maturité est complète et l'imagination aussi fraîche, aussi active que jamais, surtout dans le silence des passions folles et impétueuses que l'âge emporte avec lui. Mais les forces lui manquent, les sens sont usés et demandent du repos plus que du mouvement. Et pourtant, avec tous ces inconvénients, quelle consolation que celle qui vient du travail. Que je me trouve heureux de ne plus être forcé d'être heureux comme je l'entendais autrefois. À quelle tyrannie sauvage cet affaiblissement du corps ne m'a-t-il pas arraché? Ce qui me préoccupait le moins était ma peinture. Il faut donc faire comme on peut. Si la nature refuse le travail au-delà d'un certain nombre d'instants, ne point lui faire violence et s'estimer heureux de ce qu'elle nous laisse. Ne point tant s'attacher à la poursuite des éloges qui ne sont que du vent, mais jouir du travail même et des heures délicieuses qu'ils suivent, par le sentiment profond que le repos dont on jouit a été acheté par une salutaire fatigue qui entretient la santé de l'âme. Cette dernière agit sur celle du corps. Elle empêche la rouille des années d'engourdir les nobles sentiments.
Mais à ce moment, Béatrice Didier, si je compare donc ce journal à d'autres journaux de la même époque romantique, disons en gros, je ne prends pas tellement un romantique, je ne pense pas qu'il soit romantique, disons un grand libéral du temps qui est Benjamin Constant, bien, je vois que son journal intime alors est vraiment un journal, c'est-à-dire une simple relation des choses. Ses rapports amoureux, par exemple, sont marqués par des signes. Une croix, deux croix, un rond, etc. Les carnets de Hugo sont à cette semblance. Alors que chez Eugène Delacroix, il y a un travail de l'écriture. Delacroix écrit son journal intime, et il le dit d'ailleurs, enfin, le dit de biais. Mais on peut quand même le comprendre, puisqu'il parle d'écrire. Il l'écrit en écrivain.
Oui, mais peut-être justement parce qu'il est peintre. C'est paradoxal, mais je crois que, étant peintre et se mettant à écrire son journal intime, il va se livrer à une sorte de travail d'écriture auquel l'écrivain, qui n'est qu'écrivain, ne se croit pas obligé de se livrer parce que, par ailleurs, il pratique d'autres genres littéraires, par exemple Benjamin Constant ou la plupart des écrivains qui ont eu un journal intime.
Lundi 9 juin 1823. Pourquoi ne pas profiter des contrepoisons de la civilisation, les bons livres? Ils fortifient et répandent le calme dans l'âme. Je ne puis douter de ce qui est véritablement bien. Mais au milieu des fanatiques et des intrigants, il faut de la réserve. On se reproche trop souvent d'avoir changé. C'est la chose qui a changé. Quelle chose plus désolante. J'ai 2, 3, 4 amis, eh bien. Je suis contraint d'être un homme différent avec chacun d'eux, ou plutôt de montrer à chacun la face qu'il comprend. C'est une des plus grandes misères de ne pouvoir jamais être connu et senti tout entier par un même homme. Et quand j'y pense, je crois que c'est là la souveraine plaie de la vie. C'est cette solitude inévitable à laquelle le cœur est condamné. Une épouse qui est de votre mesure est le plus grand des biens. Je la préférerais supérieure à moi de tout point, plutôt que le contraire. Hier dimanche, Henri Hugues déjeunait ensemble, chez Champmartin, folie, dîner chez M. Guy Mardet et promenade à Monceau. Bonne journée. Dimanche 9 novembre 1823. Revue La Mille. Elle est venue à mon atelier. Je suis bien plus tranquille. Et pourtant, bien délicieusement atteint. Je lui suis médiocrement cher, comme amant s'entend, car je suis convaincu qu'elle a pour moi presque tout le tendre attachement que j'ai pour elle. Singulière émotion. Je lui soutenais la jambe et j'ai osé remonter. Eh bien, le soir, j'ai été chez la cousine, et tout le temps, je n'ai cessé de... Chère femme, au moins ne réveille pas dans mon cœur de nouveaux tourments. Je trouvais tant de choses à lui dire, quand je ne l'eus plus. Il m'a semblé qu'avec le secret, tout était dit, puisqu'il s'agit de ne plus faire un malheureux. Mais je ne veux plus qu'on me dise qu'on m'aime, et qu'on ait en même temps des procédés pour un autre. J'ai vu Piron également, ce soir-là. Je la reverrai jeudi. Dieu, que de choses en arrière. Et ma petite Émilie, elle est déjà oubliée. Je n'en ai pas fait mention. J'y ai trouvé de doux moments. C'est lundi dernier que j'avais été chez elle. À ce jour, j'ai été voir Régnier, chez qui j'ai revu une esquisse de Constable. Admirable chose. Et incroyable. Dimanche 25 janvier 1824, aujourd'hui dîner chez M. Lelièvre, un diable de colonel tout plein de ses hauts faits d'Espagne, nous y a ennuyés beaucoup. En revenant avec Édouard, j'ai eu plus d'idées que dans toute la journée. Ceux qui en ont vous en font naître. Mais ma mémoire s'enfuit tellement de jour en jour que je ne suis plus le maître de rien, ni du passé que j'oublie, ni à peine du présent. Où je suis presque toujours tellement occupé d'une chose que je perds de vue ou crains de perdre ce que je devrais faire, ni même de l'avenir, puisque je ne suis jamais assuré de n'avoir pas d'avance disposé de mon temps. Enfin, je désire prendre sur moi d'apprendre beaucoup par cœur, pour rappeler quelque chose de ma mémoire. Un homme sans mémoire ne sait plus sur quoi compter, tout le trahit. Beaucoup de choses que j'aurais voulu me rappeler de notre conversation en revenant m'ont échappé. Je me disais qu'une triste chose de notre condition misérable était l'obligation d'être sans cesse vis-à-vis de soi-même. C'est ce qui rend si douce la société des gens aimables. Ils vous font croire un instant qu'ils sont un peu vous. Mais vous retombez bien vite dans votre triste unité. Quoi ? L'ami le plus chéri, la femme la plus aimée et le méritant ne prendront jamais sur eux une partie du poids ? Oui. Quelques instants seulement. Mais ils ont le manteau de plomb à traîner. Je suis ramené à une autre de mes idées. C'est celle qui a précédé cette dernière. Tous les soirs, lui disais-je, en sortant de chez M. Lelièvre, je rentre chez moi dans l'état d'un homme à qui sont arrivés les événements les plus variés. Cela finit toujours par un chaos qui m'étourdit. Je suis 100 fois plus hébété, 100 fois plus incapable, je crois, de m'occuper des affaires les plus ordinaires qu'un paysan qui a labouré toute la journée. Je disais à Édouard qu'on s'attachait aux amis quand ils faisaient autant de progrès que vous. La preuve en est que des circonstances charmantes dans la vie, et dont on conserve les souvenirs avec délices, n'étaient plus bonnes à recommencer réellement, et juste comme elles s'étaient passées. Témoins encore les habits d'enfance qu'on revoit longtemps après.
Il est curieux de voir dans son journal le squelette complet de son dictionnaire des beaux-arts.
Oui.
Donc là, il y a aussi ce va-et-vient entre une œuvre qu'il médite et ces carnets qu'il tient pour lui.
Oui, mais là, c'est une des fonctions aussi de beaucoup de journaux intimes, d'être une sorte de travail d'élaboration pour d'autres livres.
Et de temps en temps,
Charles Dubost, très souvent, par exemple.
Et de temps en temps, évidemment, chez lui, dans le journal de Jeanne Delacroix, j'entends, il y a des abandons à la nature.
Oui.
Donnons encore un exemple, par exemple, du Rossignol en 1824.
7 mai 1824, quel rapide instant de gaieté dans toute la nature. Ces feuilles si fraîches, ces lilas, ce soleil rajeuni, la mélancolie s'enfuit pendant ces courts moments. Si le ciel se couvre de nuages et se rend bruni, c'est comme la bouderie charmante d'un objet aimé. On est sûr du retour. J'ai entendu ce soir, en revenant, le rossignol. Je l'entends encore, quoique fort éloigné. Ce ramage est vraiment unique. Plutôt par les émotions qu'il fait naître qu'en lui-même. Buffon s'extasie en naturaliste sur la flexibilité du gosier et les notes variées du mélancolique chanteur du printemps. Moi, je lui trouve cette monotonie, charme indéfinissable de tout ce qui fait une vive impression. C'est comme la vue de la vaste mer, on attend toujours encore une vague avant de s'arracher à son spectacle, on ne peut le quitter. Que je hais tous ces rimeurs avec leurs rimes, leur gloire, leur victoire, leur rossignol, leur prairie. Combien y en a-t-il qui aient vraiment peint ce qu'un rossignol fait éprouver? Et pourtant, leurs vers ne sont pleins que de cela. Mais si le Dante en parle, il est neuf comme la nature. Et il n'en a entendu que celui-là. Tout est factice, est paré et fait avec l'esprit. Combien y en a-t-il qui aient peint l'amour? Le Dante est vraiment le premier des poètes. On frissonne avec lui, comme devant la chose, supérieur en cela à Michel-Ange, ou plutôt différent, car il est sublime autrement. Mais pas par la vérité. Et c'est comme cela que j'ai toujours rêvé, sans le définir, soit en peinture, précisément cela. C'est une carrière unique, mais quand une chose t'ennuiera, ne la fais pas. Ne cours pas après une vaine perfection. Il est certain défaut pour le vulgaire qui donne souvent la vie.
Mais vous, Pierre Dex, les propos que nous avons d'échanger maintenant, et vous qui peut-être avez beaucoup regardé la peinture, enfin, j'entends qu'il avait essayé de maintenir un lien entre la peinture et l'histoire, parce que il ne faudrait pas non plus oublier que Delacroix est un homme assez daté. Vous avez écrit beaucoup sur Zola, alors il est évident que lorsqu'on lit Delacroix, on voit très bien, malgré certaines louanges qu'il fait de Courbet, elles sont rares, mais elles existent. Il est évident que ce que Zola va vanter, la peinture de plein air, est strictement condamné par Delacroix, qui dira que le dessin, c'est quand même l'imaginaire, qu'on ne dessine pas sur le motif. Et Baudelaire, qui va prendre sa défense, va à ce moment-là être en contradiction avec Zola, disons, avec une nouvelle peinture qui, quand même, commence à se faire, alors que Delacroix est toujours en activité.
Oui, mais vous savez, je ne sais pas, j'ai dans ma vie lu trois fois le journal à des moments tout à fait différents. La première fois, bon, je l'ai simplement découvert. La deuxième fois, j'ai fait exprès de le relire, c'était il y a 20 ans, parce que je pensais à un livre sur Delacroix pour le moment du centenaire de la mort, livre que j'ai d'ailleurs écrit. Et puis j'ai repris le journal après, précisément dans les études auxquelles vous faites allusion, qui ont trait plutôt à l'impressionnisme et ce que j'ai appelé l'aveuglement devant la peinture, et précisément l'aveuglement des peintres devant leur propre peinture. C'est pour ça que le journal de Delacroix m'intéressait par un biais dont je parlerai tout à l'heure. Et ce que je voudrais dire, c'est, j'ai donc lu le journal à partir de la peinture. Je ne suis pas posé les problèmes biographiques qui ont été soulevés tout à l'heure. Et moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est purement hypothétique, qu'il n'y a pas de preuve de ce que j'avance. C'est à la lecture, c'est la différence entre les deux parties du journal par rapport à ce qu'il dit de sa propre peinture. Dans la première partie, il est le conquérant. J'ai arrêté la composition des massacres de Sion. Enfin bon, on voit quelqu'un qui se colète avec les grandes surfaces, va triompher au salon, bon, il est sûr de, enfin, d'une certaine manière, je ne dirais pas sûr de lui, mais sûr d'être capable de grandes choses. Il a toute l'audace de la jeunesse. Dans la deuxième partie, nous avons affaire à un homme qui est bien sûr 25 ans plus tard, et une œuvre derrière lui, voit les choses de façon tout à fait différente, mais où je crois qu'il passe, en dehors de l'inquiétude devant la maladie, de l'inquiétude devant les événements, la révolution de 48 et d'autres choses, une inquiétude sur l'art, qui, je crois, pour moi, est très significative parce que il perçoit confusément qu'il s'est passé un certain nombre de choses qui ont modifié presque tout le jeu. Et je ne crois pas l'avoir faussé en essayant de chercher ses aveux. Et tout à l'heure, quand vous parliez de Courbet, moi je crois qu'un des passages fondamentaux du journal, je vais vous le rappeler, je ne vais pas vous le relire parce qu'il est un peu long, mais parce qu'il met en cause précisément tous les changements, c'est celui où il parle des baigneuses et où il dit « J'ai été étonné de la vigueur et de la saillie de son principal tableau, mais quel tableau, quel sujet, et c'est pas dans le bon, sens, la vulgarité des formes ne ferait rien, c'est la vulgarité et l'inutilité de la pensée qui sont abominables. Et même au milieu de tout cela, si cette idée telle qu'elle était claire, que veulent ces deux figures ?» Or, ce qui est extrêmement frappant, on sait le scandale qu'il y a eu devant les baigneuses de Courbet. On sait moins, parce que c'est une chose dont on s'est occupé récemment, que c'est probablement le premier tableau important de la peinture française où un peintre, au lieu de partir des idées du nu, c'est-à-dire de l'académie et de l'académisme, est parti de photographies d'un modèle réel. Et ces baigneuses qui secouent tellement Courbet sont des vraies femmes, photographiées par Valou de Villeneuve, on a les clichés maintenant et on sait très bien de quelle façon très exacte Courbet s'en est servi. Or, Delacroix s'est lui aussi servi de photographie un peu plus tard, et avec d'ailleurs des tas de réticences. Mais ça voulait dire quoi? Ça voulait, je parle du point de vue de l'histoire de la peinture, de sa propre histoire.
Bien sûr.
Ça voulait dire quelqu'un qui sortait de représentations convenues, qu'il avait apprises, qu'il maniait d'ailleurs très remarquablement, pour entrer dans un domaine tout à fait différent où la représentation du réel à deux dimensions était donnée par des moyens mécaniques et chimiques dans lesquels on n'intervenait pas et qui brusquement ne pouvait pas faire sentir à Delacroix, et on a ses dessins d'après les propres photographies qu'il a fait faire de ses modèles, que les conventions dont il ne se rendait pas compte existaient. Et ce qui me frappe beaucoup devant ce texte de Courbet, devant ce texte sur Courbet, qui paraît comme ça, le scandale devant des femmes nues, etc., c'est qu'au fond de la croix, qu'est-ce qui l'arrête là-dedans? C'est ce qu'il appelle la disparition de la peinture d'idées. Or, je crois que si nous traduisons en termes modernes, en termes de langage contemporain, c'est exactement ce que Malraux appelle le silence de la peinture à partir de Manet. L'exécution de Maximilien qui dit tout, sauf les idées qu'on s'attendrait à recevoir de l'exécution de Maximilien. C'est-à-dire que je veux dire que dans le subconscient de la croix, dans la zone qui justifie précisément le retour au journal intime, il y a sa situation personnelle par rapport à la peinture qui est de vivre ce que nous savons être une période de transition, mais non, lui n'a aucune idée. Lui, il sait simplement, non, mais parce que la période de transition, ça impliquerait qu'il sait où cela aboutit. Et nous croyons lire dans sa peinture ce qui annonce un certain nombre d'aboutissements dans l'impressionnisme, dans le néo-impressionnisme, etc. Surtout que beaucoup de peintres ont pris appui sur lui. Mais lui, il est tout à fait évident, quand il écrit, quand il reprend son journal intime aux alentours de la cinquantaine, et à plus forte raison quand il le conduit, enfin jusqu'à son terme, c'est-à-dire aux alentours de la soixantaine, qu'il est déjà un homme qui a affaire à cette évolution au nom de toute l'œuvre qui est déjà constituée, qui pèse. Et je crois que c'est une chose importante dans le journal, comme un des moteurs, non pas direct, bon, il y en a d'autres moteurs, mais un moteur sur lequel il revient constamment et qui est peut-être un leitmotiv important.
C'est possible, mais je voudrais d'abord l'avis de Hubert Damiche et j'aurais des choses à dire.
Je voudrais d'abord revenir sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure, touchant le caractère intime du journal de la Croix. Moi, ce qui me frappe dans ce journal et ce qui m'a fait m'y intéresser à plusieurs reprises, c'est qu'en fait, à mon sens, hein, ce qu'il y a de plus intime dans ce journal concerne la peinture. C'est-à-dire que, à la limite, on entre vraiment dans... Il y a des pages tout à fait étonnantes où il explique comment rendre la couleur de tel ou tel fragment qu'il a frappé particulièrement. On entre vraiment dans la cuisine de la peinture. Et à cet égard, je crois qu'il faut quand même corriger un peu ce que vient de dire Pierre Dex, avec lequel je suis absolument d'accord pour l'essentiel. La correction que j'apporterais touche le rapport à la photographie et l'idée que Delacroix pouvait se faire de l'époque dans laquelle il vivait, ce que vous avez qualifié d'époque de transition. Je crois d'abord qu'on ne peut pas dire que Delacroix était réticent à l'égard de la photographie si on le compare à ses contemporains. Le journal, je les ai relevés d'ailleurs les textes, le journal comporte au contraire des phrases qui à l'époque, hein, dans le contexte qui était celui de l'époque, sont tout à fait remarquables, où il dit au contraire que la photographie va transformer complètement le rapport du peintre à son art et que c'est très bien comme ça. Et alors là, on touche à quelque chose de tout à fait profond qui ne contredit pas du tout à ce que vous avez dit. C'est par exemple l'usage qu'il a fait des photographies, qu'il n'a pas seulement fait prendre, mais qu'il a prises lui-même, j'y insiste, par le côté mécanique de la photographie, qui par exemple devait permettre au peintre, il y a un texte sur l'enseignement du dessin qui est tout à fait étonnant de ce point de vue-là, dans les écrits alors de Delacroix, pas dans son journal, où il montre comment la photographie va pouvoir permettre au peintre de faire l'économie de tout ce qui était la technique des peintres traditionnels, en particulier pour ce qui concerne la perspective. Alors c'est tout à fait remarquable que la perspective qui a été au départ, si vous voulez, le travail sur la perspective, qui a été à l'origine de l'idée intellectuelle qu'on s'est faite de la peinture, parce que c'est en se présentant comme perspectiviste, comme des savants à la limite, entre guillemets, comme des géomètres en tout cas, que les peintres se sont fait reconnaître en tant qu'intellectuels, tout à fait remarquable de constater qu'au XIXe siècle, quelqu'un comme Delacroix vient et reconnaît dans la photographie ce qui va... en fait, dans ses propres termes, détruire la peinture en tant qu'art intellectuel, en tant que pratique d'intellectuel, puisque maintenant, la photographie va permettre, par des moyens purement mécaniques, d'obtenir cette construction perspective qu'on s'est chiné à obtenir par des moyens plus ou moins compliqués. Donc, je ne dis pas du tout que Delacroix a été sensible au fait qu'il vivait une époque de transition. D'ailleurs, ce mot de transition, je suis bien d'accord avec vous, ne signifie rien. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'il a parfaitement senti que c'était une époque où la peinture se dérobait. Et je crois que ceci se voit jusque dans sa technique, hein, dans sa technique dont nous constatons maintenant toutes les insuffisances. Tout ça parce qu'il a vraiment, la peinture s'est dérobée à lui dans ce qu'elle avait de traditionnel, entre guillemets. Voyez.
Et tout à l'heure, j'ai été trop rapide, en effet, vous avez raison, sur la photographie. Mais ce qu'il a vu, je parle le crayon à la main, là, parce que ce n'est pas dans le journal, mais c'est exactement ce que Manet a fait avec les photographies qui aboutissent à Olympia. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que la photographie détruisait la perspective, qu'elle permettait de peindre à plat. Mais oui. pour Delacroix, c'est le scandale absolu. Pour Delacroix, il ne peut pas y arriver à cette idée. C'est pour ça que je dis qu'il a vécu dans une époque de transition. Il est mort l'année du déjeuner sur l'herbe. Bon, mais il ne savait pas du tout où ça allait.
Oui, mais je suis d'accord avec vous. C'est vrai que dans ce journal de Jeanne Delacroix, peintre, la peinture, c'est vrai, c'est ce qu'il y a peut-être de plus intime. Mais ce qui me frappe quand même, pour revenir à un autre contenu du journal, si vous voulez, puisque vous avez parlé d'époque de transition, ça veut dire quoi? Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça veut dire de toute manière un malaise politique, qui, quelque part, s'est produit. Vous avez vaguement parlé des effets de 1848, première révolution socialiste, effectivement, en France, et des effets que ça a sur Delacroix. Or, il confie quand même à son journal des choses très importantes, où nous voyons émerger tout d'un coup un Delacroix, et je reviens à mon idée initiale, contraire à l'image du musée que donne à concevoir ses propres œuvres. Je pense par exemple à une réplique qu'il a contre Girardin. Il dit, d'ailleurs nous allons l'entendre, qu'est-ce que c'est que ce monsieur qui prône la machine? Enfin, vive nos paysans, on ne peut pas mélanger tout le monde.
17 mai 1853. Girardin croit toujours fermement à l'avènement du bien-être universel. Et l'un des moyens de le produire, sur lequel il revient avec prédilection, c'est le labourage à la mécanique. Et sur une grande échelle de toutes les terres de France. Il croit grandement contribuer au bonheur des hommes en les dispensant du travail. Il fait semblant de croire que tous ces malheureux qui arrachaient leur nourriture à la terre, péniblement, j'en conviens, mais avec le sentiment de leur énergie et de leur persévérance bien employée, seront des gens bien moraux et bien satisfaits d'eux-mêmes quand ce terrain, qui était au moins leur patrie, celle sur laquelle naissaient leurs enfants et dans laquelle ils enterraient leurs parents, ne sera plus qu'une manufacture de produits exploités par les grands bras d'une machine et laissant la meilleure partie de son produit dans les mains impures et athées des agioteurs. La vapeur s'arrêtera-t-elle devant les églises et les cimetières? Et le Français qui rentrera dans sa patrie après plusieurs années sera-t-il réduit à demander la place où était son village et le tombeau de ses pères? Car les villages seront inutiles comme le reste. Les villageois sont ceux qui cultivent la terre, parce qu'il faut bien demeurer là où les soins sont réclamés à toute minute. Il faudra faire des villes proportionnées à cette foule désœuvrée et déshéritée qui n'aura plus rien à faire aux champs. Il faudra leur construire d'immenses casernes où ils se logeront pêle-mêle. Que faire là les uns après des autres, le flamand auprès du marseillais, le normand de l'alsacien? Autre chose que consulter le cours du jour. Pour s'inquiéter, non pas si dans leur province, dans leur champ chéri, la récolte a été bonne, non pas s'ils vendront avec avantage leur blé, leur foin, leur vendange, mais si leurs actions sur l'anonyme propriété universelle montent ou descendent. Ils auront du papier au lieu d'avoir du terrain. Ils iront au billard jouer ce papier contre celui de ses voisins inconnus, différents de mœurs et de langage. Et quand ils seront ruinés, auront-ils au moins cette chance qui leur restait, quand la grêle avait détruit les fruits ou les moissons, de réparer leur infortune à force de travail et de constance, de puiser au moins dans la vue de ce champ arrosé tant de fois de leur sueur, un peu de consolation ou l'espoir d'une meilleure année? Oh, indigne philanthrope! Ah, philosophe sans cœur et sans imagination! Vous croyez que l'homme est une machine comme vos machines? Vous le dégradez de ses droits les plus sacrés sous prétexte de l'arracher à des travaux que vous affectez de regarder comme vils et qui sont la loi de son être, non pas seulement celle qui lui impose de créer lui-même ses ressources contre le besoin, mais celle qu'il élève en même temps à ses propres yeux et emploie d'une manière presque sacrée les courts moments qui lui sont accordés. Ah, faiseur de feuilletons, écrivassier, faiseur de projets. Au lieu de transformer le genre humain en un vil troupeau, laissez-lui son véritable héritage, l'attachement, le dévouement au sol. Que le jour où des invasions nouvelles de barbares menacent ce qu'ils appellent encore leur patrie, ils se lèvent avec joie pour la défendre. Ils ne se battront pas pour défendre la propriété des machines. Pas plus que ces pauvres Russes, ces pauvres serfs enrégimentés, ne travaillaient pour eux quand ils venaient ici venger les querelles de leur maître et de leur empereur. Hélas! Les pauvres paysans, les pauvres villageois. Vos prédications hypocrites n'ont déjà que trop porté leurs fruits. Si votre machine ne fonctionne pas sur le terrain, elle fonctionne déjà dans leur imagination abusée. Leurs idées de partage général, de loisirs et même de plaisirs continuels sont réalisées dans ces indignes projets. Ils quittent déjà à qui mieux mieux, et sur le plus faible espoir, le travail des champs. Ils se précipitent dans les villes, pour n'y trouver que des déceptions. Ils achèvent d'y pervertir les sentiments de dignité que donne l'amour du travail, et plus vos machines les nourriront, plus ils se dégraderont. Quel noble spectacle, dans ce meilleur des siècles, que ce bétail humain engraissé par les philosophes.
Michel Drouin, je voudrais votre avis, parce qu'en plus, Delacroix entretient quand même des rapports avec aussi des écrivains. Le journal œuvre d'écriture, nous, mais vers ses écrivains. Il est vrai que Delacroix est aussi un illustrateur. Peut-être en viendra-t-on aussi à cet aspect privilégié qu'il donne à certaines œuvres. Dante, en tout cas, Shakespeare aussi, moins, enfin, il en parle beaucoup dans son journal. Mais ses rapports avec ses écrivains, bon, nous pensons d'abord à deux noms, Baudelaire, Hugo.
Oui, mais je voudrais, avant de parler de Baudelaire ou d'Hugo, revenir au projet du journal. Je crois qu'il y a un aspect fondamental dans le journal de Delacroix, c'est cet aspect qui a été d'ailleurs très bien souligné par Baudelaire, une fois de plus, c'est l'aspect de petits livres de préceptes de morale, quand Baudelaire parle du catéchisme. Et on voit déjà que dès sa jeunesse, Delacroix est l'homme qui a besoin de se discipliner. Il y a quantité de maximes dans son journal. On pourrait faire un petit livre de petits préceptes, de petits codes moraux qu'il se donne à lui-même. Et je crois que ça, c'est un aspect qui dure toute la vie, jusqu'à la fin du journal. C'est un peu d'ailleurs le projet de Gide aussi. Quand on lit les premières années du journal de Gide, c'est rempli d'un besoin de se constituer une sorte de petite morale pratique. Et Baudelaire se moque de ceux qui ne comprennent pas que même chez de grands esprits comme Delacroix, ce soit un besoin fondamental.
Mercredi 31 mars 1824, chez Leblanc. Revenu le soir avec Dufresne. Il m'a donné une nouvelle ardeur. Parler de Véronèse. Il peint aussi la passion. Il faut dîner peu et travailler le soir. Je crois que le grand monde à voir de temps à autre, ou le monde tout simplement, est moins à redouter pour le progrès et le travail de l'esprit, quoi qu'en disent beaucoup de prétendus artistes, que leur fréquentation à eux. Le vulgaire naît à chaque instant de leur conversation. Il faut en revenir à la solitude. Mais vivre sobrement comme Platon. Le moyen que l'enthousiasme se conserve sur une chose quand, à chaque instant, on est accessible à une partie. Quand on a toujours besoin de la société des autres, Dufresne a bien raison. Les choses qu'on éprouve seules avec soi sont bien plus fortes et vierges. Quel que soit le plaisir de communiquer son émotion à un ami, il y a trop de nuances à s'expliquer, bien que chacun peut-être les sente, mais à sa manière, ce qui affaiblit l'impression de chacun. Puisqu'il me conseille, et que je reconnais la nécessité de voir l'Italie seule, et de vivre seul, quand j'y serai établi, commençons dès maintenant à en prendre l'habitude. Toutes les réformes heureuses naîtront de là. La mémoire reviendra, et l'esprit présent, et celui d'ordre.
Il y a autre chose, il y a dans l'ordre de la discipline, il y a cet aspect que Baudelaire n'a souligné, je crois, qu'une fois, dans son dernier article sur Delacroix, et que je voudrais citer, c'est que la peinture de Delacroix est une peinture de désolation, et que le journal est également un instrument de la part de Delacroix pour conjurer ce qu'il sent en lui d'invincible amertume. Il y a ce passage qui pour moi est un peu la clé de l'œuvre de Delacroix. Tout dans son œuvre n'est que désolation, massacre, incendie. Tout porte témoignage contre l'éternelle et incorrigible barbarie de l'homme. Les villes incendiées et fumantes, les victimes égorgées, les femmes violées, les enfants eux-mêmes jetés sous les pieds des chevaux ou sous le poignard des mères délirantes. Tout cette œuvre, dis-je, ressemble à un hymne terrible composé en l'honneur de la fatalité et de l'irrémédiable douleur. Et alors je crois que dans son journal, Delacroix se jette vers tout ce qui peut conjurer cela. Aussi bien les lectures des auteurs, qui sont souvent
mais
à l'opposé.
Est-ce qu'il n'y a pas quand même à ce moment-là une contradiction ? J'interroge tout le monde autour de cette table. Une sorte de contradiction, ce que vous dites et ce que dit finalement le journal. Parce que quel est le recours de Delacroix ? J'étais frappé par cela. Le grand recours de Delacroix, c'est la nature. Voilà quelqu'un qui refuse la peinture de plein air. Mais il va dire, les savants, ça ne vaut rien, ils sont dans leur cabinet, dans leur laboratoire. Alors, un lapin, un rat des champs, une poule d'eau, c'est quand même beaucoup plus enseignant que n'importe quel savant. Ça ne sert à rien de découvrir de nouvelles étoiles. Politiquement, il va un peu dire la même chose. Il va dire, il faut laisser, on a entendu le texte, les gens dans leur terre, les Normands en Normandie, les Marseillais à Marseille, il les cite nommément. Et il y a là tout d'un coup un recours, un petit peu rousseauiste peut-être de Delacroix, contre quoi ? Contre justement, on ne comprend pas, là, il y a une sorte de contradiction.
Thank you.
J'ai en horreur le commun des savants. J'ai dit ailleurs qu'ils se coudoyaient dans l'antichambre du sanctuaire où la nature cache ses secrets, attendant toujours que de plus habiles en entrebâillent la porte. Que l'illustre astronome danois ou norvégien allemand, Borzébilo Cocantius, découvre avec sa lunette une nouvelle étoile, comme je l'ai vu dernièrement mentionné, le peuple des savants enregistre avec orgueil la nouvelle venue, mais la lunette n'est pas fabriquée qui leur montre les rapports des choses. Les savants ne devraient vivre qu'à la campagne, près de la nature. Ils aiment mieux causer autour des tapis verts des académies, de l'institut, de ce que tout le monde sait aussi bien qu'eux. Dans les forêts, sur les montagnes, vous observez des lois naturelles. Vous ne faites pas un pas sans trouver un sujet d'admiration. L'animal, le végétal, l'insecte, la terre et les eaux sont des aliments pour l'esprit qui étudie et qui veut enregistrer les lois diverses de tous ces êtres. Mais ces messieurs ne trouvent pas là la simple observation digne de leur génie. Ils veulent pénétrer plus avant et font des systèmes du fond de leur bureau qu'ils prennent pour un observatoire. D'ailleurs, il faut fréquenter les salons et avoir des croix et des pensions. La science qui met sur cette voie-là vaut toutes les autres. Je compare les écrivains qui ont des idées, mais qui ne savent pas les ordonner, à ces généraux barbares qui menaient au combat des nuées de Perse ou de Hun, combattant au hasard, sans ordre, sans unité d'effort et par conséquent sans résultat. Les mauvais écrivains se trouvent aussi bien parmi ceux qui ont des idées que chez ceux qui en sont dépourvus. Promenade charmante dans la forêt, pendant qu'on arrange chez moi. Mille pensées diverses suggérées au milieu de ce sourire universel de la nature. Je dérange à chaque pas dans ma promenade des rendez-vous et fais du printemps. Le bruit que je fais en marchant dérange les pauvres oiseaux qui s'envolent toujours par couple. Ah, les oiseaux, les chiens, les lapins. Que ces humbles professeurs de bon sens, tous silencieux, tous soumis aux décrets éternels, sont au-dessus de notre vaine et froide connaissance. C'est le réveil de toute cette nature. Elle a ouvert la porte aux amours. Il vient de nouvelles feuilles verdoyantes, il va naître des êtres nouveaux pour peupler cet univers rajeuni. Le sens savant s'éveille chez moi plus actif que dans la ville. Ces imbéciles, les savants, vivent dans leur cabinet. Ils le prennent pour le sanctuaire de la nature. Ils se font envoyer des squelettes et des herbes desséchées au lieu de les voir baignées de rosée.
Pierre Dex.
Je crois qu'elle est en partie levée si on fait attention à ce qui se passait dans la peinture précisément dans la première partie du journal. Delacroix plonge dans la guerre d'indépendance grecque, fait les massacres de Sion. Qu'est-ce que fait M. Ingres au même moment, le vœu de Louis XIII? Qu'est-ce que va chercher Delacroix? Il va chercher, non pas en effet le plein air, ça n'existe pas, ça, mais il va chercher pour lui l'équivalent du plein air chez Bonington, chez Turner, chez Constable, c'est-à-dire chez des paysagistes qui, eux, font du plein air. Je veux dire par là qu'il vit dans un monde qu'il ne faut pas traduire dans nos termes de 1981, sinon je crois qu'il y a des choses qu'on ne comprend plus. Parce que les massacres de Sion sont, je crois, avec le radeau de la Méduse, une des premières grandes peintures d'actualité de toute l'histoire de la peinture, au moins au XIXe siècle. Et c'était rompre avec tout ce qu'il était bon de faire, n'est-ce pas? Et de même, quand faire le voyage en Angleterre, comme Delacroix l'a fait matériellement et comme il le fait spirituellement, c'est aussi aller chercher un contact beaucoup plus direct avec la nature, avec la réalité, avec l'actualité politique. Tout ça, tous les termes sont un peu ambivalents, je crois, et un peu ambigus, et il ne faut pas que nous les traduisions trop dans notre fin du XXe siècle.
Votre opinion, Béatrice?
Oui, moi, d'ailleurs, ce que j'avais à dire se rattachait à un propos de tout à l'heure. C'est le côté peut-être rassurant, réconfortant du journal intime. Le journal apporte à des êtres inquiets une sorte de refuge maternant. Et j'ai été très frappée de voir que Delacroix lui-même disait qu'il commence son journal le jour de l'anniversaire de la mort de sa mère. Et je me demande si alors, à l'autre extrémité du journal, toutes ces pages sur la nature, liées, une sorte d'hymne à la nature, ne répondent pas finalement à cette notation du début. C'est-à-dire que soit la mort de sa mère, soit ces hymnes à la nature de la fin nous ramènent à cette espèce de fonction rassurante et maternante de beaucoup de journaux intimes.
Hubert Damiche, pardon. Je voudrais d'abord Hubert Damiche sur ce point, parce que moi, il y a aussi une chose qui me frappe aussi un peu chez Delacroix. Alors, peut-être que vous pouvez répondre aux deux questions à la fois, c'est-à-dire répondre à Béatrice Ridier à cette question-ci aussi que je vous pose. C'est qu'il me semble quand même que dans ce journal, il y a beaucoup de gommage. Ne fût-ce que l'attitude de Delacroix devant les femmes. D'après ce que nous en connaissons par les témoins, par la correspondance, et ce que dit le journal.
Oui, mais là, je vous referai le procès que je vous ai fait en commençant. C'est parce que vous partez d'une idée du journal intime que vous parlez de gommage. Après tout, c'est pas du tout le propos. Je répète ce que je disais tout à l'heure. Ce qu'il y a d'intime dans le journal concerne la peinture. Il est bien évident, dès le départ, d'ailleurs, il y a une phrase, vous citiez tout à l'heure, Béatrice Didier, le début du journal à propos de sa mère, et vous disiez, celui qui tient son journal est seul avec lui-même. Or, deux pages plus loin, il dit que je n'écris rien ici dont je puisse rougir devant ma mère.
Oui.
Ce qui montre bien qu'il ne l'écrit pas pour lui, ce journal. Et donc, il n'est pas question
de travail d'écriture, d'écrivain.
Mais ce que je voulais dire plutôt, et là, je vous rejoins tout à fait, vous, Hubert Join. La référence, enfin, c'est plus que la référence. Le rapport à la nature, à mon avis, est plus profond qu'on ne l'a dit ici jusqu'à présent. Je veux dire que c'est un rapport à ce que je disais tout à l'heure de la perte de mémoire dont la peinture souffrait à l'époque, à mon avis. Quand Delacroix se souvient de quelque chose, c'est toujours d'une impression. Et ce qu'il demande à son journal, c'est de fortifier son impression de manière à lui donner envie de la peindre. Et ces impressions, elles sont à prendre au niveau, j'en ai cité une dans ma préface, là, quand il parle de la vapeur qui s'élève des chevaux, quand il est dans l'omnibus, hein, il est assis derrière les chevaux et il voit la vapeur qui s'élève des chevaux. Image que je ne peux pas m'empêcher de rapprocher de certaines photographies. La nature, enfin, l'impression, je dirais, il emploie le mot d'ailleurs, hein, ce qui n'implique aucune relation avec les impressionnistes, hein, qu'on ne fasse pas dire ce que je ne dis pas. Mais l'impression relève précisément d'une autre forme de mémoire. Ça n'est plus la mémoire historique, ça n'est plus la mémoire qui est celle de la peinture d'histoire, qui raconte des histoires, que ce soit de la fable, hein, qui relève de la culture, ou que ce soit l'histoire au sens politique du terme. Soit dit en passant d'ailleurs, comme trou de mémoire et comme trou de journal, vous en avez un fantastique, c'est le journal de l'année 1848 qu'il a perdu dans un fiacre, comme par hasard. Là, il y a un trou. Alors là, ça, c'est certain. Là, il y a un véritable trou au sens où vous le disiez. Et son journal a doublement perdu la mémoire à ce moment-là, puisqu'il l'a vraiment perdu. Mais je crois que ce qui l'intéresse dans la nature, et c'est pour ça je suis tout à fait d'accord avec Pierre Deck, c'est très difficile de parler de peinture de plein air, parce qu'il y a déjà des peintres de plein air qui ont peut-être passé des heures en plein air, mais qui n'ont pas fait de la peinture de plein air. Et par contre, dans certaines œuvres de Delacroix, on a l'impression de peinture de plein air, bien qu'elles ont été faites uniquement à partir de notes qui ont été prises en plein air. Ce à quoi on assiste dans le journal, c'est au passage à une autre forme de mémoire. C'est la peinture qui se lie, qui va se lier, c'est en ce sens-là qu'il y a quelque chose comme une transition quand même là. Et en ce sens-là, à mon avis, que très profondément, avec beaucoup de précautions, on peut dire que Delacroix prépare l'art moderne, il y a un passage à un autre type de mémoire, qui n'est plus la mémoire culturelle, qui n'est plus la mémoire historique, qui est une mémoire qui n'est même plus la mémoire intime, qui est une mémoire liée à la perception, dans cette espèce de contradiction qui est entre mémoire et perception.
Mais alors là, je vous rejoins aussi, si vous voulez, nous rendons la politesse, mais enfin, je vous rejoins, parce qu'effectivement, je suis très frappé par les notations, pas les notations du journal, les notations graphiques, n'est-ce pas, de Delacroix, et on n'a pas cité, enfin, ici, quand même, quelque chose de très important, la série des femmes d'Alger, n'est-ce pas, où là, évidemment, nous rejoignons à la fois cette appréhension du sensible, alors disons, au lieu de nature, disons le touffu de la vie, la saveur de l'existence.
Bah, je parlerai de perception, pas de vie, pas d'existence, de vie. Non, de perception.
Même s'il faut faire attention à la référence, parce que je pensais en écoutant Hubert Damiche, par exemple, même beaucoup d'impressionnistes ont procédé par notation sur le motif et fini à l'atelier, y compris après des fauves et d'autres, n'est-ce pas? Nous avons une représentation de la peinture en plein air, avec le peintre et son chevalet et tout, qui est aussi un petit peu anecdotique, n'est-ce pas?
Bien sûr, bien sûr. Michel Douin.
Oui, je voulais revenir à cette idée de nature. Il y a donc la nature telle que la voit le peintre, mais il y a également la nature tel que l'interprète de la croix, qui est une nature abîmée, qui est une nature vouée à la barbarie, comme le soulignait Baudelaire, qui est une nature qui n'est appelée à aucune rédemption, d'où, par exemple, le divorce profond avec Victor Hugo, qui n'a pas compris du tout cet aspect chez de la croix, mais au contraire que Baudelaire a parfaitement compris. Et alors c'est ça qui me semble absolument fondamental dans le journal, c'est que le journal est également une sorte de conjuration contre cette interprétation que de la croix se fait de l'homme, l'hostilité au progrès, le refus absolu de la rédemption style Hugo.
Mais alors, en vous écoutant, il me vient un peu une autre idée, je voudrais me retourner vers Béatrice Didier, c'est qu'il me semble à ce moment-là qu'il y a une sorte de féminisation du monde par de la croix. On voit d'ailleurs dans le journal à quel point il cherche vraiment le modèle d'une esclave du massacre de Schio, par exemple, ou bien, encore une fois, je reviens à la série des femmes d'Alger, et vous ne pensez pas, Béatrice Didier, que même, de temps en temps, ces notes de nature qui sont dans le journal, alors des notes écrites, ne sont pas quand même une sorte de féminisation ou d'appréhension de la femme à l'intérieur de la nature. Bien qu'encore une fois, il soit extrêmement discret sur ses propres rapports avec les femmes. Mais on a parlé de la mère, on a parlé d'un homme qui probablement désirait être materné, ou en tout cas ne parvenait pas très bien à se dépatouiller avec le maternage. Mais il me semble quand même qu'il y a presque une mise au féminin.
Mais pour ce qui est du texte même du journal, quand même, on est très frappé par le contraste, qu'avait d'ailleurs souligné déjà Yves Florenne, mais qui saute aux yeux, entre le premier et le deuxième journal. Le premier, il y a beaucoup de choses sur ses relations avec les femmes, ses petites aventures,
etc. Mais ça, c'est
etc.
le côté stade.
Oui, puis c'est le côté un peu adolescent. Enfin. Et puis, au contraire, il y a un silence total dans le deuxième journal.
C'est ça, c'est celui-là qui m'intéresse.
Mais alors, c'est assez curieux. Enfin, ça fait d'autant plus sentir ce contraste. C'est 25 ans qui séparent les deux journaux et une attitude totalement différente dans les deux journaux, non pas peut-être à l'égard de la femme, mais à l'égard de ce qu'on en dit. On parlait beaucoup dans le premier et n'en rien dire dans le second.
Oui, mais en même temps, c'est peut-être comblé parce que je viens de dire, enfin, cette espèce de mise au monde. Parce qu'il faut faire jouer quand même la peinture de Delacroix, enfin, soyons francs, avec le journal. Bien sûr, puisque Hubert Damiche nous l'a rappelé, et à juste raison, et Pierre Dex aussi, que l'essentiel du journal intime, c'est l'intimité de la peinture. En gros. Il est évident, alors justement, que dans le deuxième journal, où il parle plus de ses relations avec les femmes, tout se passe comme s'il appréhendait cette fameuse nature dont nous avons parlé, ou cette perception dont parlait Pierre Dex, au féminin.
Oui. Mais moi, je rejoindrai tout à fait la remarque que vous avez faite tout à l'heure. C'est que finalement, sa véritable intimité, c'est avec la peinture, et que par conséquent, ces femmes, ce sont les femmes qu'il peint. Donc, oui, il n'a plus besoin d'en parler autrement.
Oui, mais pratiquement, il y a le silence du journal.
C'est ça.
Le moment où il les peint le plus.
Michel Douin.
Oui, mais mon sentiment, c'est que le journal traduit très bien cette nature impérieuse que Delacroix ne révèle pas toujours, et même qu'il masque. Delacroix, c'est l'homme qui avoue à Baudelaire « Enfant, j'étais un monstre », et qui a une violence en lui telle que s'il la laissait s'épanouir, il se perdrait complètement, il perdrait son art de peindre. Il y a par exemple chez Delacroix, qui est l'homme raffiné, le dandy, l'homme d'éducation générale, l'homme qui peut entrer dans n'importe quel salon et qui se plaît dans les salons, un homme qui à un moment éprouve une jouissance à être dans une auberge, une espèce de bouge affreux, et on retrouve là ce que disait Hubert Damiche à partir des photos, l'homme qui peut être habillé tout à coup avec un foulard qui indiquerait presque quelqu'un de la pègre. Il y a tout cela chez
que Baudelaire a souligné le rapport avec Mérimée, n'est-ce pas ?
Bien sûr. Et donc, je crois que le journal remplit, de ce point de vue-là, un office presque spirituel chez Delacroix. C'est l'homme qui, justement, trouvant en lui des contradictions inouïes, essaye de se discipliner par la référence, d'ailleurs, à certains peintres qui paraissent être l'absence totale de troubles, par exemple Raphaël.
Mais ça, c'est très curieux, parce que quand au début, hein, je parle alors de la première partie du journal, quand une jeune fille lui plaît, il dit c'est un Raphaël. Et il laisse en plus, parce qu'il en a l'art dans son journal, de laisser des phrases en suspens. Il y a des etc., Hubert Damiche, qui sont très révélateurs.
Mais il y a encore au début du journal de Delacroix cette phrase « Je me fais des peurs de tout ». Et je me demande si le journal ne fait pas partie de ce moyen de ne plus se faire peur, ne plus se faire peur à soi-même. Donc ce n'est pas seulement le répertoire de l'œuvre de Delacroix, l'instrument qui permet à Delacroix de fixer la mémoire, de fixer toutes ses opinions sur la peinture. C'est quelque chose, il me semble, de beaucoup plus profond, qui rejoint un peu le texte que je citais tout à l'heure de Baudelaire, c'est que tout en Delacroix est violence et destruction, et il lui faut des efforts inouïs pour se dominer. D'où d'ailleurs, je crois, le dandysme. Parce que Delacroix puisse aussi souvent perdre son temps, les heures qu'il a pu perdre dans sa vie, dans des bals dont il dit lui-même qu'ils étaient insipides, dans des soirées d'où il s'échappe en se promenant pendant des heures dans la nuit, en humant cette nature, après avoir quand même passé beaucoup de temps, dit-il, avec des imbéciles. Et c'est encore un moyen de se sociabiliser et de sociabiliser sa barbarie intime.
Il y a là-dessus aussi une sorte, enfin dans certaines pages du journal, dans les deux journaux, puisque nous avons fait cette distinction, une sensation, une perception, si vous voulez, du passage du temps. Il dit très souvent que les amis qu'il retrouve ne se ressemblent plus. Mais Pierre Dex...
Oui, mais non, je voulais simplement dire qu'il ne faut pas oublier que Delacroix est de la première génération post-révolutionnaire. Enfin, c'est quelqu'un né en 98. Et donc, la révolution, c'est la période juste avant sa naissance. Et l'Empire, c'est son enfance. Et de ce point de vue, il est dans une situation plus difficile que, par exemple, Baudelaire ou que Courbet, que la génération.
Puis il faut rajouter quand même à ça les ambiguïtés de la naissance.
Les ambiguïtés de la naissance et Hubert Damiche.
Qui semble être levé, soit dit en passant.
Oui, oui, mais enfin, dont il a quand même entendu parler, lui.
Je referme la barre en tête. Oui, moi je crois qu'il ne faut pas exagérer dans le genre baudelairien. Parce que, d'abord, et puis non plus ne pas exagérer, j'y insiste sur la fonction du journal dans la vie de Delacroix. J'insiste sur le fait que ce journal ne concerne qu'une partie pas très longue de la vie de Delacroix. Donc, aller s'interroger sur la fonction qui a pu être celle du journal dans la vie de Delacroix, c'est aller, à mon avis, un peu vite. Et ceci vaut aussi bien pour la peinture, hein, j'y insiste. Le Delacroix sauvage, le Delacroix barbare, je crois qu'il entre là-dedans pas mal d'autosuggestions de la part de Delacroix et de, je ne sais pas comment il faut le dire, de la part de Baudelaire, parce que c'est pas du tout ça l'image qui ressort, à mon avis, ni de la peinture ni du journal d'abord de Delacroix, ni de sa peinture.
Parce Hubert Damiche, je m'excuse, mais pour les auditeurs, parce qu'ils peuvent aussi y aller. C'est cette image de la croix qui est laissée par l'atelier de la place de Fürstenberg.
Ah, vous avez absolument raison de le signaler.
Le
vous savez, le Delacroix barbare, si barbarie il y a quelque part, c'est une barbarie qu'il a refusée, Delacroix. Delacroix, c'est quelqu'un quand même, il ne faudrait pas l'oublier, qui a vu en particulier les Goya du musée espagnol. Il y a une barbarie qu'il a refusée, Delacroix, ça c'est évident, c'est la barbarie de l'histoire, que Goya, lui, n'a pas refusé, ce que Michelet appellera dans les mêmes années l'histoire noire. Delacroix, il était attaché à une histoire, à une notion tout à fait traditionnelle de l'histoire, en fait, et si on lui avait laissé peindre, comme il le désirait au début, la légende napoléonienne, il aurait été très content. Ce qui l'a bien embarrassé, c'est de découvrir qu'il y avait une autre dimension de l'histoire, qui était la barbarie à proprement parler à ses yeux, et qui était au fond la barbarie, on peut dire, au sens littéral du terme. C'est là que Michelet disait, en disant, il y a une histoire noire sous l'histoire claire, telle qu'on l'écrit, il y a une histoire noire qui apparaît. Et cette histoire-là, Delacroix n'a jamais voulu la voir. Je ne dis pas du tout qu'il est allé se réfugier dans la nature, comme le feront aussi les impressionnistes. Hein. Enfin, Delacroix, c'est quand même quelqu'un qui n'aimait pas les villes. Hein. Il parle toujours de l'ignoble Paris. C'est quelqu'un qui a été faire le guet en 1848 pour arrêter à la barrière de je ne sais plus quelle banlieue pour aller arrêter les membres de la pègre qui déferlaient de Paris. C'est quelqu'un qui, en fait, barbarie, a surtout... s'en est prémuni, je suis bien d'accord avec vous, mais je ne crois pas qu'il l'a porté en lui du tout, cette barbarie-là. Ça, je crois que ça, c'est une des idées sur lesquelles nous vivons, que nous devons à Baudelaire, et qui au vu de sa peinture, ne me paraît pas fondée.
Mars 1860. Je suis sorti pour la troisième fois hier. Je suis resté une grande demi-heure assis dans le Luxembourg. Aujourd'hui, le temps était aigre. Je suis revenu plus tôt. Par quelle singularité la littérature la plus grave se trouve-t-elle le lot du peuple qui a passé et passe encore pour le plus léger et le plus frivole de la terre? Les anciens eux-mêmes qui ont posé les règles des choses de l'imagination dans tous les genres ne présentent point d'exemple d'un sentiment aussi soutenu de l'ordre, de la clarté, de la bienséance que les Français. Il y a un certain décousu dans les ouvrages des plus beaux génies de l'Antiquité, ils divaguent volontiers. Comme ils ont droit à tous nos respects, nous leur passons tous leurs écarts. Nous ne sommes pas d'aussi bonne composition pour nos hommes de talent. Un livre mal fait dans son ensemble ne peut se sauver par la beauté des détails, ni même par l'ingénieuse conception de l'ouvrage lui-même. Il faut que toutes les parties, ingénieuses ou non, concourent dans une certaine mesure à la connexion du tout. Et par contre, il faut, dans un ouvrage bien ordonné et logiquement conduit, que les détails n'en départent point la conception. Quand une pièce de théâtre avait entraîné le public à la représentation, l'auteur n'avait rempli que la moitié de sa tâche, il fallait que l'ouvrage, comme on disait, se soutînt à la lecture. Il est probable que Shakespeare n'était guère soucieux de cette seconde partie de son obligation envers son public. Quand il avait produit à la représentation l'effet qu'il s'était promis, quand la galerie surtout était satisfaite, il est probable qu'il ne s'inquiétait plus de l'opinion des puristes. D'abord, la grande majorité de ce public ne savait pas lire. Et eût-il pu lire, ou en eût-il le loisir, attendu qu'il se composait ou de jeunes fats de la cour plus occupés de leur plaisir que de littérature, ou de marchands de marée peu disposés à éplucher les beautés littéraires? Qui sait ce que devenait le manuscrit, le canevas sur lequel l'auteur avait monté sa pièce, et dont les bribes, distribuées aux acteurs pour apprendre leur rôle, devenaient ce qu'elles pouvaient et étaient recueillies au hasard par de faméliques imprimeurs, avec toute licence de les accommoder à leur guise, ou de suppléer aux lacunes? Ne semble-t-il pas que ces pièces pleines de fantaisie, je parle de ce que Shakespeare intitule des comédies, ou que ces drames à effet, tantôt lugubres, tantôt grotesques, j'entends les tragédies, où les héros et les valets se trouvent confondus et parlent chacun leur langage, l'action capricieusement conduite, se passant dans 20 lieues à la fois, ou embrassant un espace de temps illimité, ne semble-t-il pas, dis-je, que de telles œuvres, avec leur beauté et leurs défauts, ne doivent plaire qu'à des esprits capricieux et ne peuvent attacher qu'une nation plus frivole que réfléchie? Pour ma part, je crois que le goût, que le tour d'esprit d'une nation dépend étrangement de celui des hommes célèbres qui, les premiers, ont écrit ou peint, ou produit chez elles des ouvrages dans quelque genre que ce soit. Si Shakespeare était né à Gonesse, au lieu de naître à Stratford-sur-Avon, à une époque de notre histoire où, n'ayant eu encore ni Rabelais, ni Montaigne, ni Malherbe, ni Corneille, à bien plus forte raison, on eût vu se produire dans notre pays non seulement un autre théâtre, voire en Espagne Calderon, mais encore une autre littérature. Que le caractère anglais ait ajouté à de semblables ouvrages quelque chose de sa rudesse, je le croirais sans peine. Quant à cette prétendue barbarie que les Anglais ont montrée à certaines époques de leur histoire et qu'on donne pour une des causes de la pente de Shakespeare à ensanglanter la scène outre mesure, je ne crois pas, en interrogeant bien nos annales, que nous en devions beaucoup en fait de cruauté à nos voisins les Anglais, ni que les tragédies en action qui ont jeté une teinte si sombre, notamment sur les règnes des Valois, aient pu nous donner une éducation propre à adoucir les mœurs ni la littérature. Pour avoir banni les massacres de notre scène, laquelle n'a commencé à briller qu'à une époque plus radoucie, notre nation n'en est pas plus humaine dans son histoire que la nation anglaise. Des époques récentes et de redoutables mémoires ont montré que le barbare et même le sauvage vivaient toujours dans l'homme civilisé et que la gaieté dans les ouvrages de l'esprit pouvait se rencontrer avec des mœurs passablement farouches. L'esprit de société, qui peut-être est un instinct plus développé de notre nature française, a pu contribuer à polir davantage la littérature, mais il est plus probable encore que les chefs-d'œuvre de nos grands hommes sont venus à propos pour décrier les tentatives bizarres ou burlesques des époques précédentes et pour tourner les esprits vers le respect de certaines règles éternelles de goût et de convenance qui ne sont pas moins celles de toute véritable sociabilité que celles des ouvrages de l'esprit. On nous dit souvent que Molière, par exemple, ne pouvait paraître que chez nous. Je le crois bien. Il était l'héritier de Rabelais, sans parler des autres.
Pierre Dex.
Ça s'enchaîne sur la barbarie, c'est que, malheureusement, là, il y a le trou, le grand trou du journal. Delacroix a été des premiers voyages en Algérie, des premiers voyages tout de suite après la conquête de l'Algérie.
Les femmes d'Alger, donc.
Exactement.
Michel Douin.
Peut-être que je suis de trop près Baudelaire, par admiration pour lui, mais je crois quand même qu'il y a... et les écrits de Baudelaire sur Delacroix ne révèlent qu'une très faible partie des conversations tenues entre Baudelaire et Delacroix.
Béatrice Didier, alors ce journal, pour nos auditeurs, on le lit ?
Ah, c'est passionnant. Et très différent finalement de beaucoup d'autres journaux. Plus tonique, je crois, parce que les journaux intimes souvent sont un peu déprimants et tournent un petit peu en rond. Alors que celui de Delacroix, pas du tout. Peut-être parce que justement, il est peintre, essentiellement peintre, ce qui donne tout de suite au journal une autre dimension. Peut-être aussi parce que c'est un journal où les autres sont beaucoup plus présents que dans le journal d'Amiel ou de tant de diaristes. Il parle beaucoup des autres et de quels autres, quand il s'agit de Chopin, de Georges Sand, etc. C'est un journal qui est beaucoup plus ouvert.
Ce 12 octobre 62, Augerville, Dieu est en nous. C'est cette présence intérieure qui nous fait admirer le beau, qui nous réjouit quand nous avons bien fait et nous console de ne pas partager le bonheur du méchant. C'est lui, sans doute, qui fait l'inspiration dans les hommes de génie et qui les échauffe au spectacle de leur propre production. Il y a des hommes de vertu comme des hommes de génie. Les uns et les autres sont inspirés et favorisés de Dieu. Le contraire serait donc vrai. Il y aurait donc des natures chez lesquelles l'inspiration divine n'agit point, qui commettent le crime froidement, qui ne se réjouiront jamais à la vue de l'honnête et du beau. Il y a donc des favoris de l'être éternel. Le malheur qui semble souvent et trop souvent s'attacher à ces grands cœurs ne les fait pas heureusement succomber dans leur court passage. La vue des méchants comblés des dons de la fortune ne doit point les abattre. Que dis-je, ils sont consolés souvent en voyant l'inquiétude, les terreurs qui assiègent les êtres mauvais, leur rendent amère leur prospérité. Ils assistent souvent, dès cette vie, à leur supplice. Leur satisfaction intérieure d'obéir à la divine inspiration est une récompense suffisante. Le désespoir des méchants traversés dans leurs injustes jouissances et... Se rappeler la forêt de Châtaignier entre Milly et Corbeil, le 27 octobre 62.
C'était Relecture, une émission d'Hubert Juin. Aujourd'hui, Eugène Delacroix. Avec la participation de Béatrice Didier, Pierre Dex, Michel Drouin et Hubert Damiche. Texte lu par Michel Bouquet et Jean-Paul Richepin. Chef opérateur du son, Gilbert Costa. Collaboration technique, Bernard Astier. Assistante, Cécile Tranvan. Réalisation, Anne Lemaitre. Thank you.
Cette émission a été diffusée la première fois le 12 mars 1982 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.